Les marchandes de sable, aux origines du monde, contes et légendes créoles. De Bouki et Malice. Un jour, alors qu'il était en train de discuter avec la fiancée de Bouki, Malice se vanta de pouvoir chevaucher celui-ci, comme s'il s'agissait d'un cheval. « Je ne peux pas croire une chose pareille !» répondit la fiancée de Bouki, indignée. « Ha ha, je vous promets de le faire piaffer devant votre balcon avant la fin de cette semaine. Allez, vous plaisantez !» Le lendemain matin, bavardant de choses et d'autres avec Bouki, Malice laissa entendre qu'il était invité chez le roi à un bal, qui serait précédé d'un grand dîner. Bouki, entendant ceci, ouvrit grand les yeux. « Oh Malice, mon frère, emmenez-moi s'il vous plaît !»« Mais c'est malheureusement impossible, vous n'êtes pas invité. »« Certes, mais vous pouvez vous débrouiller pour m'arranger cela ?»« Impossible, à moins que... » Vous n'allez jamais accepter. Allez, dites-moi toujours. Voilà mon idée. Vous me servirez de monture, et une fois arrivé là-bas, vous enlèverez discrètement votre selle et pourrez alors entrer dans la salle parmi les autres invités. Bouki refusa tout d'abord avec indignation, mais il se mit à repenser aux dizaines de plats succulents qui seraient proposés au cours du dîner et qui allaient lui échapper. Alors, il finit par accepter. D'accord. « Alors à demain, » dit Malice. « À demain, » répondit Bouki. En fin de semaine, Bouki se présenta de bonne heure devant la case de Malice. Les deux compères bavardèrent quelques instants, puis Malice alla chercher sa selle et la fixa solidement sur le dos de Bouki. Bouki se mit à gémir, mais pensant de nouveau au succulent plat qu'il allait pouvoir déguster, il se laissa faire. « Les œillères sont-elles vraiment indispensables ?» douta cependant Bouki. « Cela ne fait rien, vous n'aurez qu'à aller toujours tout droit, et je vous dirai s'il faut tourner à droite ou à gauche. » Ce fut en revanche plus compliqué pour lui mettre le mort. Bouki se mit à gémir, car cela lui faisait mal aux dents. Mais une fois de plus, se remémorant les plats du dîner, il finit par se laisser convaincre. Finalement, Malice put sauter sur le dos de son ami. Il lui enfonça les éperons dans la chair et lui dit qu'il pouvait y aller. « Mais il n'a jamais été question d'éperons !» bondit Bouki en hurlant de douleur. « Vous plaisantez, cher ami. A-t-on déjà vu un cavalier sans éperons ?»« D'accord, mais s'il vous plaît, arrêtez de me les enfoncer ainsi si violemment ou je refuse de marcher. » Néanmoins, Bouki se mit à trotter. Il avait même fière allure. Il ne tarda cependant pas à se fatiguer. Mais Malice lui administra un violent coup de cravache qui le piqua jusqu'au cœur. « Mais Malice, personne n'a parlé de cravache non plus !»« Vous plaisantez, imbécile! Avez-vous déjà vu un cavalier sans cravache ?» Le pauvre Bouki commençait à transpirer à grosses gouttes, mais il continuait le chemin tant bien que mal, sans trop savoir dans quelle direction il marchait, car les œillères lui masquaient une bonne partie de sa vision. Bouki finit par s'efforcer de lever la tête. Il aperçut alors qu'il était en dessous du balcon de sa fiancée. Pris de colère, Bouki se mit à ruer, bondir, mais en vain. Malice le tenait fermement par les rênes. Le bruit de la colère de Bouki finit par attirer sa fiancée, qui sortit sur son balcon voir ce qui se passait. Lorsqu'elle le vit endurer les coups d'éperon de Malice qui le chevauchait, elle fut tellement choquée qu'elle en perdit connaissance. Crapolade. Il était une fois, il y a bien longtemps, un jeune crapaud tout juste sevré qui quitta sa famille afin de faire sa vie. C'est ainsi que Crapaud croisa un jour sur son chemin une jeune et belle zandolie, soit une lézarde verte, qui dormait tranquillement sur une pierre chauffée par le soleil. crapaud tomba immédiatement éperdument amoureux de cette jolie lézarde. Cette dernière leva juste un œil, mais elle était trop endormie sur son caillou pour lui prêter la moindre attention. Crapaud s'était assis à quelques centimètres d'elle et ne pouvait cesser de la regarder langoureusement. Lassé, Zandoli finit par sortir de sa torpeur, se leva et disparut derrière un mur. Crapaud se précipita chez ses parents et leur dit qu'il souhaitait vivement épouser cette magnifique lézarde. « Mon fils, lui répondit son père, es-tu devenu fou? Laisse donc cette demoiselle Zandoli aux nombreux prétendants de son espèce. Il va certainement t'attirer des problèmes si tu ne laisses pas cette lézarde tranquille, renchérit sa mère. Papa, maman, maintenant que j'ai croisé son regard, pensez-vous réellement que je vais pouvoir oublier cette sublime créature et y renoncer? Rétorqua Crapaud. Quoi que l'on te dise, tu es comme tous les enfants d'aujourd'hui, et tu ne nous écouteras pas. Tu n'en feras qu'à ta tête. Alors à quoi bon t'interdire? Laisse tout juste te mettre en garde. Tu vas au-devant des pires ennuis, répondirent les parents d'une seule voix. Si vous l'aviez vu, vous comprendriez. Alors n'essayez pas de me décourager, insista Crapaud. On a bien compris, mais prends garde à toi, on t'aura prévenu. Les parents n'eurent pas le temps de finir leur phrase que déjà Crapaud était sorti de la case. Il se mit à la recherche d'une autre maison qui pourrait l'accueillir, lui et sa future dulcinée. Dès le lendemain matin, Crapaud se fit beau et se rendit à l'endroit où il a vu rencontrer Zandoli. Celle-ci était à nouveau là, profitant d'un bain de soleil sur son rocher. Crapaud s'agenouilla devant elle et lui déclara sa flamme. La lézarde crut d'abord mourir de rire. Tant l'idée de se mettre en ménage avec cette horrible bestiole lui paraissait saugrenue. De plus, la belle était déjà promise depuis quelque temps à un beau lézard brun dont elle était très amoureuse. Zandoli se dit qu'elle pourrait néanmoins tirer profit de ce crapaud. Elle se retint donc de rire, fit tout possible pour reprendre son sérieux et lança à son prétendant. « Dites-moi, êtes-vous riche au moins ?»« Suffisamment pour être en mesure de combler le moindre de vos désirs, » répondit Crapaud. « Cher ami, je voudrais vous croire, mais êtes-vous dès à présent en mesure d'acheter tous les meubles indispensables à une vie de couple et de les mettre dans un dépôt que je vous indiquerai ? Si vous y parvenez, alors je pourrai vous croire et nous pourrons alors déterminer une date pour notre mariage, » répondit Zandoli. « Faites donc une liste de tout ce dont vous avez besoin. » Et je promets de vous déposer tous les meubles et tous les objets dans votre dépôt, répondit Crapaud. La jeune Zandoli fit donc une longue liste, la remit gracieusement à Crapaud, lui fit un léger baiser sur le front de façon à ne pas le décourager, puis elle prit congé de lui. Le lendemain, en début d'après-midi, Crapaud avait déjà apporté tous les objets demandés dans le dépôt, puis il attendit Zandoli. Celle-ci arriva peu de temps après, entra dans l'entrepôt, et regarda attentivement chaque objet qui avait été déposé par Crapaud. « Mais il manque une cuisinière » dit-elle, l'air étonné. « C'est qu'il n'y avait aucune cuisinière mentionnée sur votre liste, » se défendit Crapaud. « C'est que j'ai dû l'oublier sur ma liste, » s'excusa Zandoli. « C'est néanmoins nécessaire absolument et indispensable d'en avoir une avant d'entamer notre vie de couple. Sinon, comment ferais-je pour vous préparer de succulents repas ?» Crapaud acquiesça et promit de rapporter la fameuse cuisinière dès le lendemain. Zandoli lui sourit gentiment et lui fit un second baiser sur le front avant de prendre congé de lui. Le jour suivant, en début d'après-midi, Crapaud était de nouveau là, devant le dépôt, avec une belle cuisinière toute neuve. Zandoli arriva à son tour avec une bonne demi-heure de retard. Elle n'eut pas le temps de prononcer le moindre mot que Crapaud lui dit joyeusement. Je vous ai non seulement apporté une cuisinière toute neuve, mais j'ai également acheté les alliances et suis passé voir monsieur le curé pour fixer une date. La jeune lézarde faillit d'abord s'étouffer à l'idée de se marier prochainement avec ce bel âtre. Mais heureusement pour elle, elle savait garder son sang-froid et avait toujours beaucoup de réparties. Oh, Crapaud, mon amour, que tu as été efficace, mais il me faut juste t'avouer une toute petite chose. Figure-toi qu'il y a bien longtemps, j'avais fait un vœu. Et je serai malheureuse toute ma vie si seulement je me mariais avant de l'exaucer. Je me suis promis de porter, le jour de mon mariage, une couronne de fleurs d'oranger. Mon souhait, c'est que l'homme que j'aime et que j'aurai choisi comme époux aille chercher ces fleurs d'oranger loin, là-bas, au bord de la grande rivière. Tout ému, Crapaud répondit à Zandoli. « Oh, mon amour, à aucun prix je ne voudrais t'empêcher de réaliser ton vœu le plus cher. Et tu sais bien que je suis prêt à tout pour toi. Demain, je partirai à la première heure vers la grande rivière et je te rapporterai les fleurs d'oranger dont tu as tant envie. » La lézarde embrassa tendrement son prétendant et lui souhaita un bon voyage. Le lendemain, alors que le soleil ne s'était pas encore levé, Crapaud était déjà en route. Il se sentait léger et heureux, et la longue route qui l'attendait ne lui faisait absolument pas peur. Pendant ce temps-là, Zandoli avait rejoint son véritable fiancé. Tous deux se retrouvèrent donc devant le dépôt et commencèrent à déménager tous les objets laissés par Crapaud, puis ils partirent loin de là, vers une destination inconnue. Crapaud revint en fin de la journée, couvert de sueur, les patins sanglantés et passablement essoufflés. Le long chemin avait épuisé le pauvre animal, qui se mit néanmoins immédiatement à la recherche de Zandoli, sans reprendre son souffle, et se rendit au dépôt, là où il était persuadé de la trouver. Personne. Crapaud attendit un long moment, puis décida d'ouvrir la porte du dépôt. La pièce était totalement vide. Sur le mur du fond était accrochée une feuille de papier sur laquelle était écrit ceci. « Adieu, Crapaud, pauvre crétin. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et meurs de ridicule, si tu veux. » Crapaud se sentit vacillé. Il s'appuya contre le mur, puis s'assit par terre, car il sentit ses pattes faiblir. Le pauvre animal avait littéralement changé de couleur et des dizaines de boutons purulents lui poussaient sur le dos. En quelques instants, Crapaud avait totalement changé d'aspect et l'émotion et la désillusion l'avaient transformé en une espèce de lépreux, de ladre. Crapaud resta ainsi durant de longues heures, puis il décida de se lever et de retourner chez ses parents. Il marcha tant bien que mal jusqu'à la maison familiale. Sa maman, en l'apercevant, cria de stupeur. Elle fit entrer son fils, commença par lui soigner ses pattes meurtries, puis lui frotta le dos avec des herbes, en espérant faire disparaître ses boutons. Les jours s'écoulèrent, mais Crapaud ne retrouvait toujours pas la forme. Ses parents firent appel à de nombreux guérisseurs, mais aucun ne parvint à lui faire retrouver sa peau, et ses boutons restèrent. Crapaud finit par retrouver un peu de vie, mais probablement parce que sa déception amoureuse avait été bien trop forte, jamais il ne retrouva sa peau d'avant. Il finit par épouser une gentille demoiselle Crapaud, qui lui donna des enfants. Mais quand ceux-ci naquirent, tous avaient le dos couvert d'ulcères et de boutons. Et depuis ce temps-là, tous les crapauds viennent au monde ainsi. C'est la raison pour laquelle, à la Martinique, lorsque l'on aperçoit un crapaud, on dit généralement « c'est un crapaulade », c'est-à-dire un crapaud ladre.
Bonne nuit.